Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrot.
Fin de match complètement folle ici au King Power.
Oh!
Et Jamie Vardy entre dans la danse.
And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
PL Zone.
Aguero.
Salim Bongali, Florent Moussi.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue, le plus beau des championnats au monde. Le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport les matchs. Le lundi, on se retrouve pour le débrief dans PL Zone en podcast sur toutes les plateformes d'écoute avec Flora Moussi. Salut Flora.
Salut Salim, salut à tous.
Bonjour Loïc Moreau.
Salut tout le monde.
Samantha Svec, Tristan Tessier, Julie Dereau en régie. Deux gros thèmes que nous allons aborder dans PL Zone, le podcast. Épisode 5, on va parler de la première place de ce classement dans quelques minutes, mais d'abord, on va aller dans le nord-ouest de la capitale.
Si !
Mais pourquoi oh pas ? Oh, mais pourquoi pas ? Joshua King après son triplé contre Everton.
Ah, mais c'est tellement, tellement logique et mérité hein, pour Watford.
La frappe au corps ! Oh ! Ismaïl Assar trouve le petit filet ! Les Red Devils menaient 2-0. Joan Pedro ! Joan Pedro ! Et c'est terminé sur les genoux, Lindelof et Wan-Bissaka.
Wow!
Et de 4 jusqu'à la ligne. 3 buts d'écart à l'arrivée contre un promu. United est au plus mal.
Et 4 buts à 1, score final pour Watford face à Manchester United. Une goutte d'eau encore plus qui a fait déborder le vase, déjà bien rempli de Manchester United. Thomas Desson qui était au commentaire de cette partie. Salut Tom.
Elle se moque la dame quand je dis terminé, mais c'était bien fini.
C'était bien
et
senti,
c'est un peu le cas, ouais. Parce que, et en plus ça s'est encore plus entendu à travers vos commentaires. À 2-1, au rouge de Maguire, au 3-1, au 4-1, que l'inéluctable allait forcément se produire.
Ouais, alors tu... On a entendu Seb Piocel dans les commentaires qui disait que c'était tellement logique. Même à l'entame de la rencontre, notre boulot, c'est d'aller voir sur la toile. Et les pundits, les experts anglais, sont toujours un petit peu plus durs que nous, outre-Manche. Il y avait un commentaire qui était assez lugubre, mais qui est une expression forte en Angleterre et aux États-Unis. C'est il plante les clous de son propre
cercueil.
Putting the nails in his own coffin. Et l'explication, c'était de dire il y a eu 3 défaites cinglantes, Liverpool, Leicester, contre City, évidemment, avec cet aveu d'impuissance. Et tu t'aperçois qu'il y a 8 joueurs à chaque fois qui sont reconduits. J'imagine qu'on va en débattre. Est-ce qu'il a des seconds couteaux qui ont le niveau? Mais Solskjaer pas en mesure d'amener un plan B? Est-ce que, évidemment, on a tiré sur l'ambulance et c'était le premier maillon à faire sauter? Ça, on le sait, vous en parlez depuis longtemps. Les mots à Manchester sont vieux de 8-10 ans, mais là, on sentait que ça allait sauter en cas de défaite. Et dès le pénalty, déjà avec un exploit d'Erea à 2 reprises, ils sont complètement à côté du match.
Et donc, Ole Gunnar Solskjaer qui a été démis de ses fonctions officiellement dimanche matin. On va conclure rapidement sur le Norvégien, car désormais, il faut forcément parler de l'avenir. Mais avant, il s'est quand même passé une chose extrêmement rare. Ole Gunnar Solskjaer viré, utilisons le terme, qui a réservé ses premiers mots au site de Manchester United. C'est presque étonnant parce qu'en général, il y a le droit de réserve, le coach préfère ne pas parler, le club demande au coach de ne pas parler. Et bien là, il s'est exprimé sur le site de United et on sent un respect réciproque entre les deux parties.
Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai eu cette opportunité et je suis tellement honoré et privilégié qu'on m'ait fait confiance pour m'occuper du club jusqu'ici. Et j'espère vraiment le laisser dans un meilleur état que lorsque je suis arrivé. Je me suis fait de très bons amis. J'ai aussi repris contact avec d'autres. De nouveaux sont arrivés dans le staff. Et je suis devenu ami aussi avec eux. C'est aussi le cas avec le staff qui était déjà en place. Nous sommes tous amis et tous dans de bonnes relations. Mais c'est comme ça que ça se passe dans un club comme celui-là. Et c'est aussi le cas avec les fans. Les fans ont été merveilleux du premier jour à Cardiff jusqu'au dernier jour hier. C'était super, je pense vraiment que nous nous reverrons. J'aime beaucoup Michael, mais je vais m'arrêter là, je suis ému. C'est un mec super. On arrête là, s'il vous plaît. Ils vont s'en sortir, je serai toujours derrière eux.
Oui, on le sent ému à la fin. Ce sont bien des larmes, hein. C'est de la radio, mais je vous assure. Hein. Oui, il pleure, effectivement, Florent Moussy. C'est vrai que de le voir comme ça, c'est... Oui, c'est émouvant. Encore une fois, on le rappelle, l'affect qu'il existe entre l'institution United et le joueur qu'il a été et le nom, le coach qu'il a été aussi.
C'est le risque quand on prend un ancien joueur comme ça qui a marqué le club pour notamment ce but en finale de la Champions League. Il a une histoire tellement particulière avec ce club que tout le monde avait envie d'y croire en fait, parce que c'était la lignée de Sir Alex Ferguson, parce que c'est lui qui allait faire revivre cette flamme qu'il avait sous l'égide de l'Écossais. Et puis finalement, ça le fait pas, même si on y a cru pendant longtemps du côté des supporters de Manchester United. Mais finalement, on a envie de dire vaut mieux que ça s'arrête maintenant pour les deux parties, même pour lui, parce que c'est quelqu'un d'assez jovial, Solskjaer, tout en permanence, on le sentait de plus en plus renfermé, de plus en plus triste, attristé par ce qui se passe dans ce club, parce que même lui, on le voit, en fait, il avait plus les clés, il avait plus les cartes, en fait, pour faire que ça marche avec ce club-là, donc il fallait mieux arrêter maintenant.
Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, quand tu prends des anciens joueurs, ben oui. T'as l'impression qu'au bout de 2 ans et demi, il dit qu'il est encore honoré d'être là, que c'est un cadeau, il faut du c'est détachement dans ce pense, football en fait. Super moderne, bien sûr, mais tu dois avoir du détachement dans un club où tu peux être viré du jour au lendemain, et puis j'espère avoir laissé le club dans un meilleur état. Moi, je crois qu'il dit en anglais, je crois avoir laissé le club dans un meilleur état. Derrière les deux monstres, Klopp et Guardiola, il est troisième au rendement depuis qu'il est là. Sauf que là, le club, il est aux portes de l'Europa League. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on puisse dire qu'il l'a laissé dans un meilleur état. C'est un bourbier depuis longtemps.
Tu parles effectivement de cette continuité qu'il ne faut peut-être pas avoir. Ça n'a pas marché non plus avec Mourinho, ça n'a pas marché non plus avec Van Gaal. Donc en fait, quelle est la solution aujourd'hui, que ce soit avec cette espèce de filiation ou avec un entraîneur totalement extérieur au club?
Non, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais secoué le pommier, quoi, si tu veux. Ça fait 8 ou 10 semaines qu'il est honoré d'être là.
On va en parler justement de cet avenir, forcément, juste le bilan de Solskjaer au final à la tête de United.
Tu parlais de Mourinho, Flora, mais il est moins bon que son bilan.
Oui, bien sûr.
Que celui de Mourinho, donc c'est toujours pareil. On a beau critiquer cette période mourinesque, mais au final, il
peut-être parce que le jeu était horrible
titres.
En fait.
Oui, mais il a gagné des titres.
On est dans le podcast, on peut rappeler que Mourinho a été entraîneur de l'Inter.
Mais pas seulement. Non, mais tout simplement, si on doit juger un entraîneur sur effectivement les titres qu'il a remportés, ben Mourinho là aussi est devant Solskjaer. Sur le pourcentage de victoires, il est aussi devant Solskjaer. De toute façon, il a le meilleur pourcentage de victoires pour un entraîneur. Pas de beaucoup, mais ça joue quand même à 4 points. Donc on est à 58 pour Mourinho, à 54 pour Solskjaer. Donc voilà, encore une fois, il laisse, quand il dit effectivement je laisse le club dans un meilleur état que là où je l'ai pris, c'est pas si évident que ça.
Bon, désormais on va continuer d'en parler de United, mais de l'avenir, puisque désormais il n'est plus là, c'est Michael Carrick qui est sur ce banc et on va en parler avec Julien Laurence. Bonjour Julien.
Salut à tous.
Michael Carrick, effectivement, qui est désormais l'intérimaire. Enfin, l'intérimaire de l'intérimaire. On n'a rien compris à ce communiqué.
C'est vrai. D'ailleurs, on en a parlé dans l'émission hier, dimanche. J'ai très mal vécu ce mot intérimaire. Pour moi, pour un club comme Manchester United, Flora, c'est un des plus grands clubs du monde. On ne va pas chercher un intérimaire. Même Aston Villa, ils ne vont pas chercher un intérimaire. Ils vont chercher l'entraîneur qu'ils veulent, celui qui pense qu'ils peuvent les relancer, comme Steven Gerrard, par exemple. Et pour Manchester United,
ne va pas chercher un intérimaire. Julien, décembre 2018, OGS, c'est déjà un intérimaire. On a l'impression que c'est la mode.
Non, c'est un caretaker. C'est pas pareil.
Fais-moi le distinguo, s'il te plaît.
Alors, dans le vocabulaire de United, en tout cas dans le communiqué de dimanche matin, c'est là, on a un caretaker, donc, qui est en fait effectivement un entraîneur adjoint comme Michael Carrick, qui vient pendant quelques matchs, quelques jours. Donc, il sera par exemple sur le banc demain contre Villarreal. Il fait aujourd'hui la conférence de presse d'avant-match.
Moi j'ai un caretaker à la maison, mais c'est pour mon enfant de 5 ans. Il y a un moment aussi, il faut choisir les mots.
C'est peut-être un petit peu pareil, tu sais. Sauf qu'après, En général, une fois que ce caretaker, donc intérimaire en français, c'est comme ça qu'on peut le traduire, ben, une fois que tu as trouvé ton entraîneur, il revient dans son poste d'adjoint et toi, tu as nommé ton entraîneur. Ce qui est très rare, c'est d'avoir un intérimaire et après un autre intérimaire en attendant que tu aies ton choix principal d'entraîneur. Mais aujourd'hui, je suis désolé, pour moi, Manchester United, ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois pour aller chercher l'entraîneur qu'il souhaite aujourd'hui. Si tu veux Pochettino aujourd'hui, bah, tu fais le maximum pour aller le chercher. Tu es le plus grand club du monde. Si tu veux un Zidane, un Nagelsmann, un je sais pas qui, tu vas le chercher maintenant. Non, pourquoi attendre cet été pour aller chercher un mec que tu pourrais avoir maintenant?
Alors, non, mais c'est ça que je voulais te dire. Est-ce que c'est pas déjà le cas en décembre 2018? Moi, j'ai souvenir, je regarde Flora, mais Laurent Blanc, il avait été sondé déjà en 2018. Il le sentait pas, il attendait un plus gros truc, et puis finalement, il pensait qu'il aurait l'Inter. Il l'aurait pas eu. Ils n'étaient pas dans la position, en fait, d'avoir un plus grand entraîneur. On est toujours dans le même cas. Conte leur a soufflé sous le nez. C'est qui le big name qui va venir là?
Non, je pense, en 2018, je pense que c'est déjà Pochettino. Le problème, c'est que c'est compliqué pour eux de négocier avec Daniel Levy, avec Tottenham, et que à ce moment-là, ils disent à Solskjaer, écoute, prends les rênes de l'équipe pendant un petit peu de temps, on ne sait pas encore combien de temps, et pendant ce temps-là, laisse-nous regarder de notre côté pour Pochettino. Le problème, c'est que Solskjaer gagne ses 7 premiers matchs d'affilée, qu'ensuite ils vont effectivement gagner au parc, même dans le contexte qu'on connaît, et Pochettino, c'était trop compliqué à faire en décembre 2018, c'était quasiment impossible. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre l'époque fin Mourinho, début Solskjaer, décembre 2018, et maintenant, où Pochettino, par exemple, lui, je pense qu'il viendrait à pied de Paris à Manchester.
Justement, les noms... Salim, le prince, il a dit « Vas-y, Pochettino, parce que nous, Zidane au Qatar, ça nous plaît. » Il a dit ça, le prince.
Oui, sans doute. On va évoquer les noms dans quelques instants, forcément, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs, notamment dans la presse anglaise et pas que. On a effectué aussi un sondage sur le compte Twitter de RMC Sport. Tiens, on va donner la parole à Emmanuel Petit. On n'a pas évoqué de nom avec lui, mais le profil et surtout le travail à venir pour le futur nouveau coach de United. Un travail ô combien imposant.
Je ne sais pas ce qu'a l'intention de faire Manchester United, mais... On a l'impression qu'il n'y a pas de cap véritablement dans ce club depuis pas mal d'années, quoi. Donc il faudra vraiment que le futur manager soit bien défini avec un cap à suivre. Surtout remobiliser un groupe qui est en perte de confiance, d'efficacité et de résultats, et surtout des joueurs qui sont l'ombre d'eux-mêmes pour la plupart d'entre eux. Donc il y a beaucoup de travail pour le futur entraîneur, ça c'est une certitude. Ouais.
Avant d'évoquer encore une fois ces noms et ce sondage aussi, Flora, Emmanuel l'a dit, il y a un boulot colossal pour redresser des joueurs, un staff, enfin tout redresser quoi.
En fait, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que ça fait 8 ans à Manchester United que c'est la panacée. Et même en fait, la dernière année de Ferguson, est un peu, voilà, il part avec ce titre effectivement, mais il laisse le club dans un état qui n'est pas le même dans les années glorieuses qu'il a fait avec ce club-là. Et donc du coup, forcément, il faut reconstruire tout ça après. Donc c'est mettre sur les épaules en fait, de Moyes derrière, par exemple, qui était beaucoup trop, enfin c'était trop important pour lui finalement de se retrouver à cette place-là. On va chercher des grands noms que sont Mourinho, Van Gaal, en se disant bah, il faut quelqu'un de caractère pour que ça marche. Ça ne marche pas au final. On se dit, on va revenir peut-être à l'essence du club avec cette philosophie, cet ADN avec Solskjaer, et ça ne fonctionne pas non plus. Donc, moi, on peut aller chercher qui on veut aujourd'hui. On peut mettre qui on veut, le meilleur entraîneur du monde. Je ne suis pas persuadée que ça marchera parce que, comme le dit Manu, le fond du problème, il n'est pas là, en fait. Et même les joueurs l'ont dit en conf, Fernandez l'a dit, Carrick même l'a dit aujourd'hui, voilà. Le problème, il est peut-être juste ailleurs, en fait. C'est beaucoup plus profond que ça, Manchester.
Je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais... la défense est cataclysmique depuis des années et c'est toujours les mêmes noms depuis 3 ans. Mmh. Sauf que quand Bruno arrive, ils avaient perdu 4 matchs sur 11 et ils étaient au même rendement avant la défaite de Watford, ce qui fait que le bilan est encore plus mauvais. Arrivée de Bruno, finissent 3e. Offensivement, ça allait. Là, ça ne va plus non plus offensivement. Désolé, mais il y a un Cristiano hier ou avant-hier maintenant, samedi, qui joue façon Madrid, c'est-à-dire sur le côté, qui est obligé de décrocher très bas. Oui, il vous a mis 4 buts clutch. Mais c'est ouais, des buts que vous auriez dû mettre avant.
Ton problème de fond, c'est pas Cristiano, quoi. Tu vois,
ah,
c'est pas,
je commence à me poser la question pas. Si les déséquilibres sont pas
oui,
un peu
non,
partout
là,
maintenant.
De cette année, mais
non, mais tu t'es rajouté un problème en fait. Oui, tu t'es rajouté une équation en plus.
En tout cas, peut-être que le nouveau coach, justement, va avoir ce boulot aussi avec Cristiano et comment jouer précisément et proprement avec Cristiano. Parce qu'au final, cette question s'est souvent posée de comment jouer avec CR7. Donc, qui pour arriver sur ce banc? La question est extrêmement simple. Elle a été posée sur le compte Twitter de RMC Sport. De nombreux noms évoqués. On l'a dit, Pochettino, on va en parler. Laurent Blanc, Zinedine Zidane, Eric Ten Hag. Et tant d'autres. Celui qui arrive largement en tête de ce sondage, Laurent Blanc,
39%, devant Pochettino 26, Zidane 24. Laurent Blanc, on le rappelle, aujourd'hui, il est au Qatar. Hein.
Gasset n'est pas dispo.
À Al Rayyan, effectivement, il n'est pas avec Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset est l'ancien entraîneur de Bordeaux.
Mais c'est important quand même.
Ouais. Mais vous avez raison. Et surtout son ancien adjoint, notamment au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, donc, il est à Al Rayyan, 8e sur 12 dans le championnat qatari. Seulement 2 victoires en 9 journées. Et surtout, un ancien joueur de Manchester United. C'est un nom qui revient souvent quand on a besoin d'un coach. Thomas le rappelait tout à l'heure, Julien Laurence. Il y a quelques années, lorsque United a besoin d'un coach, ben bam, on avait de nouveau parlé de Laurent Blanc. Enfin, à chaque fois qu'il y a besoin d'un coach quelque part, on parle de Laurent Blanc, en fait.
C'est vrai, ouais. Alors, je pense que c'est lui qui se met beaucoup en avant pour ces postes-là, plus que le sens inverse. C'est pas du tout une critique envers Laurent Blanc, mais on sait qu'il attend depuis très longtemps un très grand poste depuis son départ du PSG. Et c'est lui aussi, je pense, et son agent notamment, qui propose Laurent Blanc au club plus que dans le sens inverse. Après, si United continue sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le, il faut quelqu'un juste jusqu'à la fin de la saison. Et comme on l'expliquait aussi hier dans l'émission à la télé, c'est qu'il y a beaucoup de grands noms, de grands entraîneurs, qui n'accepteraient pas juste de prendre ce club-là, aussi grand qu'il soit, jusqu'à la fin de la saison. Peut-être que Blanc, lui, serait plus à même d'accepter qu'un Rodgers, qu'un Ten Hag, qu'un Rangnick, qu'un Pochettino, etc., qu'un Zidane. Mais après, je suis désolé, aujourd'hui, c'est pas du tout le même standing. On peut pas comparer Pochettino et Laurent Blanc. On peut pas comparer Ten Hag et Laurent Blanc.
Juste pour ajouter à ce que tu dis,
Rodgers et Laurent Blanc.
Julien, j'avais eu la chance d'être sur un événement avec Laurent Blanc et d'autres anciens. Bref, des anciens internationaux qui avaient évolué en Serie A. Donc, c'était en Italie pendant 3 jours. Ça faisait, allez, 2 mois qu'il avait été remercié de Paris. Il avait touché ses 23 millions. Il m'avait dit, j'ai envie de prendre le temps autant. Sauf que derrière, au bout de 6 mois, tu veux toujours un club top level. Regarde la différence avec Antonio Conte. Il ne faut pas qu'il se passe plus de 6 mois. D'abord, les mecs ont la dalle. Et voilà, ils savent qu'ils vont disparaître. Tout va trop vite. Aujourd'hui, il a un petit peu disparu des radars.
Bah, c'est-à-dire qu'on parle de Laurent Blanc juste parce qu'il a joué à Manchester United aujourd'hui. Enfin, son nom est évoqué là aujourd'hui juste parce que c'est un ancien joueur et qu'on se dit il faut qu'il y ait au moins une petite ADN du club encore, ce que n'ont pas Zidane ou Pochettino, tout ça.
Tiens, juste rebondis sur vos propos, Flora. L'ADN, parce qu'on parle souvent de l'ADN du club avec United. On dit souvent que ça doit se raccrocher, que c'est une histoire particulière, etc. Est-ce que ça existe vraiment au final? Est-ce qu'en 2021-2022, on peut encore parler de ça?
Alors, ça existe. Oui, ça existe. Après,
est-ce
question...
que ça doit encore exister?
Voilà, c'est plus ça la question. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que United a à peu près tout essayé avec Solskjaer, c'était cette volonté d'ADN, de continuité. Ça ne fonctionne pas plus. Donc, est-ce que c'est aller chercher quelqu'un qui a cet ADN, mais qui a peut-être plus de caractère, plus d'expérience que ne l'avait Solskjaer? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Qui on va aller chercher avec ça? Il y a personne.
Mourinho, avant 2004, il ne veut pas aller à Chelsea. Son rêve, c'est de succéder à Sir Alex Ferguson depuis 20 ans. Donc, c'est-à-dire que si on voulait comparer justement Mourinho, entre guillemets, mercenaire, il ne l'était pas. Son rêve d'Angleterre, c'était United. Mais même là, tu vois, ça l'avait pas fait.
Et pour te répondre rapidement, Salim, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, il faut abandonner en fait cet ADN-là. Et moi qui suis beaucoup le club, ça me fait mal au cœur de dire ça, hein, franchement, honnêtement. Mais en fait, on se dit peut-être qu'il faut s'en détacher parce qu'à force de trop regarder le passé, on se rend compte que finalement, ça ne permet pas d'avancer aujourd'hui.
Julien, en Angleterre, on est prêt à ça, à tourner la page, entre guillemets, de l'ancienneté et se tourner vers l'avenir vraiment à United?
Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, la page de l'ancienneté. Pour moi, l'histoire de United, l'ADN de United, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Sir Alex Ferguson, il n'avait aucun rapport avec Sir Matt Busby. Et pourtant, c'est les deux plus grands entraîneurs de l'histoire du club et de l'histoire du football britannique.
Mais c'est eux qui ont créé cette histoire autour du club.
Oui, mais c'est pas parce que Solskjaer a joué pour Sir Alex Ferguson pendant 10 ans qu'il va faire jouer cette équipe bien et la faire gagner.
Mais finalement, c'est ce qu'on a voulu croire.
Oui, mais je vois pas du tout le rapport. Je sais même pas comment on a pu croire que simplement parce qu'un joueur a joué sous Ferguson.
C'est un peu comme Xavier Guardiola, tu vois. On se dit, il a les mêmes préceptes, les mêmes principes, quoi.
Finalement, Julien, ça va se jouer aussi avec la stabilité au-dessus. Woodward et les Glazers, ils ont reçu des coups de fil d'agents sollicitants pendant la trêve internationale. La réponse du trio, c'était non, mais c'est le premier hic de Solskjaer en 3 ans. On va encore laisser un peu de temps. Au moment où on sait, après le match de Watford, que Solskjaer va être boulé, Mendes appelle tout de suite au-dessus en disant « Dites donc, moi j'ai Lopetegui à vous placer. » Donc si tu veux, dans l'urgence, à un moment, s'ils ne sont pas bien, on peut voir une dynamique tout autre qu'une logique, finalement, à Manchester United.
Juste, d'autres noms, donc on l'a dit, qui sont également évoqués. Pochettino, quand même, l'actuel coach du Paris Saint-Germain.
Et c'est lui qui a mis son nom direct sur la table. Il a fait « Moi, je suis là.
Possible.
Venez me chercher. »
Juste certains titres de la presse, notamment Sky Sports, c'est le Mail qui évoque une volonté d'arriver précoce de la part du technicien. Tiens, je rappelle, puisqu'il a été en entretien il y a quelques jours dans le Guardian, dans la presse anglaise, l'un de ses propos, justement, le plus simple pour nous aurait été d'attendre un autre projet. Il parle du projet PSG. Un projet normal, sans pression et de construire quelque chose sur le long terme. Mais nous sommes courageux et nous aimons le défi. Cela nous fait grandir. Nous profitons de cette période. Mais nous savons que la ligne est si mince. Vous pouvez être sur la lune un jour et le lendemain, vous pouvez être au fond. C'est ainsi que vivent ce type de club. Un projet normal, sans pression et de construire quelque chose sur le long terme.
Mais ça correspond à rien aujourd'hui.
Ouais, et ça correspond pas du tout à Manchester United.
Ça correspond à Tottenham. Ça correspond à Tottenham quand il est arrivé. Sauf c'est qu'aujourd'hui, ça. Et moi, c'est la seule. Aujourd'hui, les seules réservations que j'ai, après, ça fait presque un an maintenant qu'il est au PSG, je ne sais pas s'il est capable de réussir dans un club comme le PSG ou comme Manchester United ou ces grands clubs-là où tu dois gagner tout de suite en fait. Personne ne va te laisser 5 ans pour installer un projet en place, pour faire grandir une équipe, grandir un vestiaire.
Et tu dois la boucler. Ouais, et quand Mbappé et qu'on sort son mauvais, tu dois dire non, mais c'est des grands joueurs, je laisse sur le terrain.
Non, mais déjà, Tottenham, il ne disait rien, donc ce n'est pas trop dans son caractère de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais après... Donc c'est pour ça, moi je ne sais pas s'il est capable d'arriver et d'inverser tout de suite la tendance ou s'il va nous dire moi j'ai besoin quand même de 2-3 ans pour que cette équipe je l'amène, parce qu'il n'aura pas ces 2-3 ans là à United. Solskjaer les a eu simplement parce que grâce au but et voilà, et parce que grâce au but de finale de Ligue des Champions comme tu disais Flora au début, c'est tout, sinon il n'aurait jamais eu autant de temps. Donc c'est pour ça, c'est là où mais ce qui est sûr et certain, et on me l'a encore dit par texto ce matin, c'est que lui veut aller à Manchester United. Il irait maintenant. Il ne sait pas comment ça peut se passer avec le PSG et les négociations entre les deux clubs, mais en tout cas il avait voulu y aller avant, il veut toujours y aller, il voudra toujours y aller. Ed Woodward est son plus grand fan, les Glazers aussi, donc voilà, aujourd'hui je ne vois pas comment ça ne pourrait ne pas arriver dans les jours qui arrivent, voilà.
Loïc, en revanche, sportivement parlant, Pochettino qui arriverait à United, ben ça ne collerait pas forcément par rapport à ce qu'il sait mettre en place.
Ouais, c'est surtout que en fait il quitterait Paris où il a des difficultés, notamment ce qu'évoquait Thomas par rapport justement des difficultés politiques. Hein. Il l'a bien dit la dernière fois dans son interview à l'équipe que ce n'était pas à lui de déterminer en gros la philosophie du club, mais il était là pour exécuter ce que le club décidait. Et là, il aurait les mêmes problèmes à Manchester United, parce que si on prend les deux équipes européennes qui sont sans doute les plus déséquilibrées, on a Paris avec trois attaquants qui attaquent, mais qui ne défendent pas du tout, qui ne participent pas au collectif, et on a Manchester United. C'est ce qu'on disait aussi par rapport à l'absence de pressing de Cristiano. Et Cristiano, tu peux pas le mettre sur le banc, c'est pas possible. Il vient d'arriver, les supporters l'adorent, il est inamovible. Donc, t'es Pochettino, tu quittes Paris et les problèmes inhérents au PSG pour retrouver les problèmes analogues à Manchester United. Donc, c'est toujours pareil. Et en plus, Pochettino, il a une vraie philosophie, c'est un entraîneur intéressant. On parlait de ce qu'il avait mis en place à Tottenham. Il était réputé pour avoir rajeuni ses équipes. Il jouait souvent avec des équipes jeunes. Il jouait avec des équipes qui aiment avoir la possession et surtout des équipes qui ne ménageaient jamais leurs efforts. On a repris les stats, notamment à Sutton et à Tottenham. Il est toujours dans le top 2 des kilomètres parcourus, premier ou deuxième avec Tottenham. Premier avec Sutton et deuxième avec Tottenham. Et en termes de course à haute intensité, il est toujours dans le top 3. Donc voilà, il a vraiment des préceptes. Il souhaite appliquer des choses. Mais encore une fois, si politiquement, on ne lui laisse pas l'occasion, ce sera compliqué. Et à Manchester United, on voit mal, malgré ce qu'a dit Julien, le fait que Woodward, tout ça, soit fan. On va avoir...
Il va partir en plus bientôt Woodward. Donc...
Oui, même si la presse dit qu'il pourrait finalement repousser son départ et attendre un petit peu, il pourrait peut-être rester un peu plus dans le bord de United. Merci Luc pour cette précision sur Pochettino. Tiens, un dernier nom, Zidane, qui est évoqué. Alors c'est peut-être un rêve de certains, une rumeur, on ne sait pas trop. Et Zidane, il est libre.
C'est juste pour cette raison, je pense, que son nom est évoqué à chaque fois qu'un club est libre. Maintenant, voilà, on parlait de ces entraîneurs qui n'ont pas forcément de lien. Alors pour le coup, vraiment, Zidane, il faut chercher loin. Le lien avec Manchester United, il n'existe pas en fait.
Oui, mais il a eu Varane, il a eu Cristiano.
Oui, mais ça s'arrête là. Je veux dire, il ne parle pas anglais, il ne connaît pas la Première Ligue, il n'a jamais joué là-bas. Tu vois ce que je veux dire, ça paraît très compliqué.
C'est ce qu'il a dit. C'est le seul truc qui est sorti, c'est que je ne suis pas Première Ligue compatible pour l'instant. Ouais. Il y avait deux autres équations quand même avant. Il y a l'après-Qatar avec l'équipe nationale. Il y a oui. Même d'autres choses.
Il y a peut-être en attente d'autres choses.
Ouais. Et Julien, retrouver Varane et Ronaldo, il ne voudrait pas Zidane ?
Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Après, il y a le problème de la langue déjà, qui est un problème important, ça c'est sûr. Dans la façon dont lui entraîne et manage. Il y a le fait que... C'est quand même un beau bordel. Je suis désolé, on en parlait dans l'after samedi soir, Flora. Je sais que c'est ton club.
Non, mais c'est le cas. Hein.
C'est pour moi, je trouve que c'est un effectif qui est déséquilibré. Déjà, tu as quand même Ed Woodward qui va s'en aller à la fin de l'année, là, au mois de décembre. Bon, c'est pas une grosse perte. Je suis pas persuadé que Richard Arnold soit beaucoup mieux que lui. Celui qui va lui succéder, qui est son grand copain depuis l'université à Bristol ensemble, la City à Londres, etc., etc. Je suis pas persuadé que ce soit non plus une solution, surtout quand tu passes derrière David Gill.
Bien sûr.
Ensuite, je pense que les Glazers, c'est pas non plus un cadeau. Et donc, je sais pas si tu réfléchis vraiment. Pochettino, c'est son rêve, je comprends très bien. Et puis, je pense que lui, il a aussi une telle estime de lui-même qu'il pense qu'il peut y aller et ramener le club tout en haut. D'accord, très bien, c'est très bien, pas de problème. Mais je pense que pour beaucoup d'entraîneurs, tu regardes ce job en disant d'accord, c'est le plus grand club du monde, c'est aussi beaucoup d'argent parce que tu sais qu'ils auront un très gros salaire, etc. C'est des grands joueurs, mais il y a tous les mecs qu'on vient de détailler et je pense que ça peut risque, facilement, ça peut facilement te dire c'est quoi, je vais passer. Pour l'instant, je passe. Peut-être que dans 10 ans, ça se représentera, mais le club et l'équipe sera dans une meilleure situation qu'elle est aujourd'hui.
Bon, donc a priori, Zidane ne sera pas sur le banc dimanche prochain face à Chelsea. Hein, a priori, Chelsea-Manchester United, ce sera dimanche à 17h30. Et ça sera intéressant à suivre sur RMC Sport, forcément. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Julien Laurence. Et nous, on va continuer d'évoquer cette Première Ligue à travers la course à la première place.
Sadio Mané avec Mo Salah. Moussala qui va trouver Trent Alexander-Arnold.
Oh, oui,
Emile Amino qui a mis une poignée de secondes a trouvé le chevalier filé. 4-0, démonstration de Liverpool dans cette deuxième période.
Avec N'Golo Kanté, la percée du français N'Golo Kanté. Il va y aller tout seul.
N'Golo Kanté.
Et Chelsea s'envole grâce à Kanté.
Avec la frappe terrible. Quelle frappe. Quelle frappe de Rodri. Un missile qui transperce toute la défense d'Everton et qui vient se loger dans la lucarne. 2-0 pour Manchester City. Encore un but d'anthologie.
Et au final, 3-0 même pour City face à Everton. 3-0 pour Chelsea face à Leicester. 4-0 pour Liverpool face à Arsenal. Chelsea 29, City 26, Liverpool 25. Dans cet ordre-là, au classement en Première Ligue, on est d'accord, Flora, on a les trois là.
Ah oh bah oui. Enfin, si on pouvait avoir quelques doutes au début de saison avec United ou Arsenal, on ne les a plus. Clairement, ils se sont détachés tous les trois assez simplement. Et quand on regarde les effectifs et la forme des trois clubs, ça paraît totalement, totalement évident. Et franchement, enfin, quand on est observateur de cette Première Ligue, on se régale, quoi. On se dit que ce n'est pas possible. Alors même si... Voilà, et c'est tellement inconstant parfois, c'est-à-dire que quand ils se jouent entre eux, c'est un niveau qui est quand même très impressionnant, puis après ils peuvent perdre le week-end suivant contre une équipe un peu moins impressionnante, et du coup c'est là aussi que ça relance le suspense, parce qu'on se dit qu'à n'importe quel match il peut se passer quelque chose, mais forcément ça va se jouer entre les trois, je vois pas un autre club venir bouleverser cette hiérarchie pour le podium.
Allez, on retourne à Londres. Après Julien Laurence, Mathieu Faury avec nous, salut Mathieu.
Salut tout le monde.
La presse, elle en dit quoi de ce trio? C'est ce trio-là qui va finir en tête?
Bah oui, la presse, en fait, elle est d'accord avec Flora. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on n'imagine plus personne d'autre que ces trois-là pour la course finale. En début de saison, il y avait les attentes autour de United avec le transfert de Ronaldo. Mais depuis environ la défaite à Leicester le 16 octobre et tout ce qui a suivi derrière, les attentes n'ont pas duré très longtemps. Et plus les journées passent, plus l'Angleterre s'émerveille pour ce trio de tête. Chelsea, c'est pas l'équipe qui fait le plus parler en ce moment parce qu'ils affrontent pas de très gros matchs, mais 4 victoires sur les 5 dernières rencontres. Le Guardian parlait d'un match déséquilibré tellement face à Leicester, tant l'écart était grand. Et pour City, bah, la presse continue de remettre en question le système, son numéro 9 qui coûte face aux équipes moyennes parce que face à des blocs bas, on n'a pas toujours la solution. Mais on salue encore les prestations des ailiers avec notamment Raheem Sterling qui revient au premier plan. J'ai aussi une discussion avec Simon Mullock du Sunday Mirror, un journaliste ce week-end, pour parler de Bernardo Silva, et toute l'Angleterre est sous le charme de ce joueur-là. Même Rodri avec son but génial contre Everton. J'ai lu que City n'avait jamais été aussi proche de trouver le successeur de Fernandinho. Donc on a un Chelsea qui est en pleine bourre après sa Ligue des Champions remportée, City qui est aussi sur sa lancée, qui se reconstruit petit à petit dans ce nouveau système, et Liverpool qui confirme, on en parlait encore d'autres fois. Il y a quelques accros face aux équipes de milieu de tableau.
De niveau moyen, ouais.
Ouais, voilà. Et il y a effectivement ces accros, mais en dehors de ça, face aux équipes, il y a toujours des gros scores. 4-0 contre Arsenal, 5-0 contre United, donc un trio en pleine bourre.
Loïc, est-ce que les stats vont dans le sens des propos de Mathieu?
Ce qui est marrant, c'est qu'on a regardé donc, les fameux expected goals, donc par rapport à la qualité des occasions créées et la qualité des occasions subies.
Et j'avoue, les XG, à la base, j'y étais pas. Et en fait... La manière dont tu l'expliques, bah c'est top en fait. Moi, je comprends.
Attends, il y a les XG, il y a les XA, les expected assists, il y a les...
Attends, quoi, déjà les XG.
Calme-toi, ouais. Déjà on a assimilé un.
Déjà, c'est déjà pas mal. Non, mais au final, ça permet d'aller plus en profondeur, de regarder un peu les chiffres sous-jacents. Et effectivement, on a bien les trois, comme on disait avec Flora, mais dans un ordre différent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Chelsea, City, Liverpool, selon les XG, City serait donc la meilleure équipe de PL devant Liverpool et devant Chelsea. Et c'est vrai que quand on regarde un peu plus près, ces trois équipes ont vraiment des qualités. Hein. On parlait de Manchester City. En termes défensifs, Manchester City, c'est quand même très solide. 6 buts encaissés. Il n'y a qu'en 2018-2019, année durant laquelle ils ont été champions, qu'ils avaient fait mieux. Et si on regarde en termes d'expected goals subis, donc par rapport à la qualité des occasions subies, c'est la meilleure équipe des 5 grands championnats européens. Donc défensivement, il laisse quasiment rien à l'adversaire et ça, c'est une vraie force. Après, Liverpool, c'est l'inverse. C'est offensivement. Là, c'est le feu d'artifice. Meilleure attaque de PL, meilleure aux XG, donc par rapport à la qualité des occasions qu'il se procure. Et Mohamed Salah, impliqué dans 18 buts, total le plus élevé des 5 grands championnats. On en parle tout le temps, mais il est stratosphérique en ce début de saison. Donc après, il y aura la CAN, va-t-il réussir à maintenir ce niveau? Et pour Chelsea, bah, c'est un peu pareil, sauf que c'est ce qu'on disait dans PL Live avant Leicester Chelsea. C'est vrai qu'il donne une impression de très grosse solidité, notamment grâce à Edouard Mendy. Mais encore une fois, ils subissent quand même assez... Ils ont des XG subis qui sont plus importants que leur nombre de buts encaissés en réel, puisque c'est la meilleure défense d'Europe dans les 5 grands championnats. Donc là aussi, peut-être pour ce qui explique en fait que Chelsea soit 3e au classement selon XG, attention, en termes d'occasions subies, ça peut, la tendance pourrait vite chuter, et peut-être que Manchester City et Liverpool réussiraient à se détacher, mais on en est encore loin.
Oui, dans cette thématique, alors qu'on est à qu'après 12 journées, cette thématique avec les trois en tête, la question a été posée à Trent Alexander-Arnold. Après cette victoire impressionnante de Liverpool face à Arsenal 4-0, et au final, il va dans le même sens que nous.
La lutte pour le titre se fera sûrement entre nous trois, ou du moins c'est ce qu'on peut penser en regardant le classement. Mais on ne doit jamais sous-estimer qui que ce soit. Aujourd'hui, on doit se concentrer sur nous-mêmes. Il y a des équipes de classe mondiale dans ce championnat, et chaque match est un match difficile. On doit faire en sorte de gagner ces matchs, prendre les points au classement et finir en tête à la fin de la saison.
Mathieu, vous avez eu la chance d'assister à différentes rencontres. L'important, c'est les trois points, certes, mais
Merci, Trent.
Aussi ce qu'il dit quand même au début sur le fait que pour lui, après deux journées, souvent les joueurs essaient de botter en touche. À la fin, ils bottent un peu en touche, mais quand même, il l'explique et il le dit aussi. En tout cas, il le sous-entend. Oui, a priori, ça va être quand même entre nous trois. Mathieu, vous avez eu la chance d'assister à pas mal de rencontres de ces trois équipes tout au long de ce début de saison. C'est vrai que l'impression laissée par ces trois-là est épatante.
Complètement, et surtout Liverpool, en fait, il y a eu un renversement de match, un renversement dans la rencontre face à Arsenal, parce qu'au début, Arsenal paraissait dangereux, même pour le public d'Anfield. En fait, dès qu'Arsenal faisait une faute, on sentait le public très énervé, sifflait plus fort que jamais, et Liverpool a quand même renversé cette situation avec Ramsdale qui a été solide. Liverpool a renversé Arsenal, il y a eu le premier but de Sadio Mané avant la mi-temps, qui a débloqué la situation, et derrière c'est la force des Reds qui a déroulé jusqu'à la fin du match avec ce 4-0 au final. Donc Liverpool, on voit quand ils sont en difficulté, ils arrivent à réagir, et c'est pareil face à Manchester City, on le disait, ils arrivent à dérouler face à des équipes du même calibre qu'eux, avec notamment face à Chelsea cette victoire à Stamford Bridge, et du côté des Blues, on en parlait aussi, leur série infernale, 4 victoires en 5 matchs avant, pour le prochain match, la réception de United.
Tiens, on va poser, et on a posé la question à Manu Petit aussi sur cette course justement au titre, et pour lui, un élément clé, un élément capital dans cette course, la Coupe d'Afrique des Nations.
Le turnover aussi, la fraîcheur sera très importante, mais pour moi la CAN qui arrive au mois de juillet est d'autant plus importante, parce que si on considère que Liverpool perdra à la fois Mané mais également Salah, c'est un énorme déficit sur le plan offensif pour eux. Je crois que City vont perdre simplement un seul joueur avec Mahrez, tandis que Chelsea perdra Mendy, qui est quand même très important dans les buts. Donc ce sont des positions extrêmement importantes. Donc je dirais que City a toujours l'habitude de lutter pour le titre chaque saison, et je pense qu'ils sont en bonne position pour reprendre leur couronne. Ouais.
Après, quand même, pour compléter le propos de Manu, j'ai envie de dire, ces trois équipes ont l'habitude de lutter pour le titre. C'est vrai que City, avec la Coupe des Nations, peut être un peu avantagé, Flora.
Oui. Après... Moi, je suis moins catégorique que Manu
je là-dessus. Je rappelle juste cette Coupe d'Afrique des Nations, en fonction du parcours de l'Algérie, de l'Égypte ou du Sénégal, ça peut être 3, 4 ou 5 journées. C'est quand même pas négligeable.
Bien sûr. Et de toute façon, on aura déjà... on y verra plus clair après la période des fêtes en Angleterre. On verra début d'année, voilà ce que ça va donner. Effectivement, qui aura perdu des points pendant cette période-là déjà, on en saura un petit peu plus. Maintenant, c'est sûr que oui, Chelsea va perdre son gardien, un poste clé. Maintenant, voilà, moi, si je suis Kepa, je me dis bah c'est le bon moment de montrer de quoi je suis capable. Ne serait-ce que si je veux pouvoir partir, avoir une bonne opportunité ailleurs, je vais me montrer à ce moment-là et être performant. Après, c'est sûr que moi, je suis plus inquiète pour Liverpool parce qu'effectivement, de perdre Salah et Mané en même temps, quand on voit le rendement qu'ils ont cette saison, à quel point ils sont importants pour Liverpool. Alors, Jota est excellent et il aura sa chance à ce moment-là. Maintenant, Minamino, c'est pas le même niveau, c'est clairement pas la même chose. Et on verra justement si Liverpool et Klopp sont capables de trouver des solutions à ce moment-là et une alternative à ces deux joueurs-là qui porte le club en ce moment, même s'il n'y a pas que. Mais c'est vrai que, Loïc le disait, ils sont surtout forts offensivement, en fait, Liverpool. Ils arrivent à marquer plus de buts qu'ils n'en encaissent. Si jamais la balance elle vient à s'inverser, ça peut être très compliqué pour eux.
C'est vrai ça, Mathieu. Au final, l'inquiétude, elle est potentiellement pour Liverpool en janvier.
Bah totalement, parce que comme a dit Flora, Mohamed Salah, avec Alexander-Arnold, c'est sûrement ton joueur qui fait le plus de différence cette saison. La machine offensive de Liverpool est impressionnante, mais c'est Salah qui fait, enfin, statistiquement, comme dans l'apport du jeu, il fait beaucoup de caméras isolées sur lui. À chaque fois, ses déplacements, ses appels, c'est lui qui attire beaucoup de défenseurs, c'est lui qui arrive à se faire oublier, c'est lui qui fait tellement de différence. Ce joueur-là, le perdre pendant un mois, tu peux compter sur Origi qui est revenu sur la score sheet, comme on dit en Angleterre, face à West Ham. Sur Jota qui monte en puissance, sur Minamino qui a marqué ce week-end aussi, mais à moins d'une grosse recrue au mercato d'hiver, là on peut s'inquiéter pour l'attaque de Liverpool.
Bon, on verra en tout cas ce que ces Reds feront en janvier. D'ici là, ils ont plein de matchs, et notamment ce week-end face à Southampton à 16h. City qui évoluera dimanche à 15h, ce sera face à West Ham. Chelsea qui accueillera Manchester United dimanche là encore à 17h30. Oui, les trois équipes évolueront à domicile. La fin de ce PL Zone. Passionnant, il y avait des choses à raconter aujourd'hui encore, notamment sur United. Merci Flora, merci Loïc, merci Mathieu, merci à Samantha, Tristan et Julie, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Hashtag PLZone pour également réagir sur les réseaux sociaux avec vos commentaires également, car ce podcast c'est le vôtre avant tout, et comme à chaque fois, comme un new Irons. Ciao.